Chapitre 24. Drouin, gardien des morts. Cette phrase sibylline qui semblait les attacher à Coulteret pour l'éternité laissa Jacques assez perplexe. Christine l'inquiétait de plus en plus. Elle avait la fièvre. Elle ne pouvait tenir en place. Où le conduisait-elle maintenant? Droit chez le sacristain, qui habitait un petit carré de pierre trouvé d'une porte de deux fenêtres. Adossé à ce qui restait de rempart et disparaissant à demi sous la vigne vierge et les plantes grimpantes. C'était une loge d'où il pouvait surveiller l'entrée du château, et c'était presque un tombeau d'où il pouvait surveiller les morts. Drouin était solennio. Il n'était ni vif ni impressionnable comme le Tourangeau, et l'on eût pu croire à le voir si avare de ses mouvements qu'il manquait d'activité. Oh, il n'en était rien. Il travaillait 15 heures par jour. Le plus souvent, le château était désert et lui appartenait. Le service de la chapelle, le cimetière, au fond, l'occupait peu. Il ne creusait pas 4 tombes par an. Il passait son temps à remuer la terre le long des anciens remparts, sur une bande de terrain qu'on lui avait abandonnée et où il faisait pousser des légumes. Enfin, il cultivait tout seul sa vigne, qui dévalait hors le rempart vers l'Apré et dont le marquis, propriétaire, lui abandonnait tous les bénéfices. Des visites archéologiques, les touristes remplissaient également son escarcelle. Son rêve, qui était prêt de se réaliser, était de quitter ce merveilleux pays pour aller s'enfouir en Sologne, dans la sauvagerie où il était né. Si ce l'était déjà fait, c'est que la veuve Gérard, à laquelle il faisait une cour muette depuis 10 ans, et à qui ne s'était ouvert de ses projets que depuis 2 mois, ne tenait pas du tout à quitter la Touraine. Avec ses économies de fourmis, il était parvenu à acheter la petite propriété qui les attendait là-bas, toute prête. Il avait toujours pensé que le gendarme ne ferait pas de vieux os, car il fréquentait trop les cabarets, et que sa veuve ne le pleurerait pas longtemps, parce qu'il la battait comme plâtre. Lui, il était doux et bon et patient. Elle serait heureuse avec lui, elle le savait. Quand Christine et Jacques pénétrèrent chez lui, il était attablé, tout pensif, devant son écuelle. Il laissa là son morceau de lard et se leva. Avec ses cheveux de crin, sa peau d'ivoire, ses membres trapus, ses épaules courbées par l'incessant labeur, il eût pu passer pour une brute s'il y avait eu les yeux qui étaient bleus de Marie et brillants de la plus tendre candeur. À 40 ans... il avait conservé le regard d'un enfant de cœur qui débute dans le sein parvis. Cependant, il n'était ni timide ni gauche. Il leur avança 2 chaises et leur demanda tout de suite s'ils avaient vu Sangor et si celui-ci avait fait la commission de monsieur le marquis. Nous l'avons aperçu, dit Christine, mais nous ne l'avons pas encore rencontré. De quelle commission s'agit-il donc ? Monsieur le marquis est parti bien précipitamment, répliqua Drouin en hochant la tête, et il n'a pas eu le temps de vous dire que vous pouviez rester au château tant qu'il vous plairait, y coucher et vous y faire servir comme s'il était là. Sanguer et moi, nous sommes à votre disposition. Notre intention était de repartir aujourd'hui même, interrompit Jacques. « Mais nous profiterons alors de la bonne grâce du marquis, acheva Christine. « Oh, si tu veux absolument rester quelques jours à Courteret, reprit le prosecteur, descendons à l'auberge, ce sera plus gai que de nous installer dans ce château désert. »« Je ne suis pas venu ici pour être gai, fit la jeune fille, avec tristesse et en prenant la main de Jacques. » Comme pour se faire pardonner sa réplique un peu vive. « Je suis venu pour y pleurer une amie. »« Madame la marquise, vous aimez bien, soupira Drouin. Parlez-nous d'elle, demanda Christine à voix basse. Il faut tout nous dire. Nous sommes préparés à tout entendre. Elle me parlait de vous dans toutes ses lettres. Elle avait la plus grande confiance en vous. Cette affaire est si extraordinaire que nous avons eu tort de ne pas y croire. Ce misérable a trompé tout le monde. Mais non, c'est rien, déclara Drouin. Christine le regarda, stupéfaite. Moi, mademoiselle, vous savez, j'ai jamais donné dans les jiries de ce pays-ci. Je suis seul agneau, là-bas on a la tête dure. Ma mère était servante chez le curé, je servais la messe à 7 ans. Je ne crois qu'au catéchisme. L'histoire de l'empouse, oh, c'est des contes de fées. Tenez, il y a ici une femme qui n'est pas méchante, mais qui est un peu bavarde et qui a été directement chassée et durement, tantôt par le marquis. C'est la veuve Gérard. Eh bien, dans le temps, la veuve Gérard a peut-être trop raconté cette histoire-là à madame la marquise, qui, entre nous, n'avait pas la tête bien solide. Oh, si moi, je ne l'ai jamais contrariée dans ce qu'elle disait. J'étais le seul à bien vouloir l'écouter quand elle me geignait en cachette dans la chapelle ou à la sacristie. Moi, je lui disais, « Oui, madame la marquise, oui, madame la marquise, mais je la plaignais, un vampire. Vous avez jamais vu un vampire, vous ? Moi, je suis gardien du cimetière depuis 15 ans. » Eh ben, vampire ou non, j'ai jamais vu les morts sortir de leur trou une fois qu'on les y avait mis. Pour cela, faut attendre le jugement dernier. Tout ce que dit cet homme est plein de bon sens, prononça Jacques. Christine se retourna vers lui dans un mouvement d'hostilité aiguë. Mais il n'empêche que nous avons eu la preuve de l'infamie du marquis, la preuve de son crime, lui jeta-t-elle. Tout est là et tu le sais bien, Jacques. Ton attitude me peine au-delà de ce que je pourrais dire. Quelle preuve ? Demanda Drouin. Eh bien, le trou dans le mur de sa chambre. Elle vous en a pas parlé.
Oh, oh si, si. Elle m'en a parlé, je l'ai vu. Oh, ben, il date pas d'hier, le trou.
Mais Georges-Marie Vincent, s'il faut en croire la légende, ne date pas d'hier non plus, laissa tomber Christine.
Oh, mais est-ce que tu deviens folle, toi aussi ? S'écria Jacques.
Et le pistolet que vous nous avez envoyé, savez-vous ce que c'est ? Reprit Christine haletante. Monsieur pourrait vous l'expliquer.
Oh, Christine, Christine, supplia Jacques, tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. D'abord, nous ne sommes sûrs de rien. Et puis, en ce moment, tu oublies. Il lui avait pris les mains et les lui serrait avec une force dont elle ne se défendait pas.
Tu oublies que nous avons autre chose à faire que de nous occuper des morts. Elle ne lui répondit pas, mais elle fondit en larmes. Soit parce que les devoirs de sa fonction l'appelaient dehors, soit par discrétion, Drouin sortit dans l'instant sans prononcer une parole. Jacques essaya de calmer Christine qui se montrait de plus en plus nerveuse. « Ma chérie, lui dit-il, je t'accorde tout ce que tu voudras. Le marquis est un monstre et la marquise une martyre. Tant qu'on pouvait encore espérer la sauver... Tu sais que j'ai été le premier à vouloir que tu agisses. Mais maintenant, je t'en supplie, détournons-nous de tout ce qui n'est pas ce que tu sais bien. Oublie le drame de Coulteret, comme il nous faut oublier celui des Corbières. Il fut un temps où tu n'aurais pas eu besoin de tant de discours. Encore une fois, ne songeons plus qu'à Gabriel. » Elle sécha, soudain, ses larmes. « Tu le veux ? Eh bien, que ta volonté soit faite, » dit-elle d'une voix sourde.
Et ce sera peut-être épouvantable. Que veux-tu dire? Ah, ça, mon cher, tu m'en demandes trop. Enfin, es-tu décidé à partir? Oui, tranquillise-toi, nous serons bientôt à Paris. Mais je ne te demande pas de retourner tout de suite à Paris. En ce moment, Gabriel peut t'attendre. Eh bien, nous attendrons ici. Il ne put retenir un geste d'impatience. Assurément, elle se moquait de lui, mais il n'eut pas le temps de manifester sa mauvaise humeur. Un bruit singulier leur venait de dehors, comme d'une course, d'une poursuite, accompagnée de petits cris perçants d'oiseaux traqués par le chasseur. Ils sortirent sur le seuil. De là, ils apercevaient une partie du cimetière qui entourait la chapelle. Drouin, comme un fou, courait de tombe en tombe derrière une ombre qui s'enfuyait en criant, piaulant, et qui finit par disparaître derrière la chapelle. Ils rejoignirent le sacristain au moment où il montrait le poing, un petit être grimaçant et ricaneur, qui sautait par-dessus le mur, au bas dans un bond suivi d'une curieuse pirouette. Ah, Sing Sing! Prononça Christine. Oui, Sing Sing, répéta Drouin en s'essuyant le front. Oh, il ne me laisse pas un instant de repos. Je l'ai surpris écoutant derrière la porte. C'est Sangor qui me l'envoie. J'aurais voulu lui administrer une bonne raclée pour la bile qu'il m'a fait faire depuis qu'ils sont arrivés ici. C'est toute cette clique qui remet Madame la Marquise si malade. À propos de Sangor, je voudrais vous dire un mot, Drouin, fit entendre Christine en jetant sur l'homme un singulier regard. Bon, je m'en doute bien, répondit Drouin. Suivez-moi. Nous serons mieux pour causer dans la sacristie. Quand ils y furent, toutes portes closes, Christine prit la parole. Elle ne quittait pas Drouin des yeux. Celui-ci paraissait déjà fort occupé à ranger quelques vêtements sacerdotaux dans une vieille armoire du XVe siècle qui tenait tout le fond de la pièce. Drouin, la marquise avait de beaux bijoux, dont elle a disposé avant sa mort, je le sais. Les voici, fit Drouin, sans marquer le moindre embarras. Et il sortit de l'armoire un vieux coffret en noyer sculpté, fermé à clef, qu'il ouvrit, et d'où il tira de merveilleuses broches à plusieurs plans en or ciselé et émaillé, travail italien du XVIe siècle, qui eussent suffi à la gloire d'une collection. C'était peu de choses, cependant, à côté d'un diadème composé de lames d'or travaillées, enrichi de pattes de verre du plus curieux effet et fermé par deux diamants gros comme de petites noisettes. Ce sont des bijoux de famille qui étaient bien à elle en toute propriété, reprit Christine. Elle me les a montrés souvent. C'était son droit d'en faire don à qui elle voulait. Vous pouvez donc me répondre sans embarras, Drouin. De même que la marquise a donné son collier de perles à Sangor, elle a pu vous donner à vous ces merveilleux bijoux. Oh oui, elle me les a donnés, voici un papier qui l'atteste, répondit le sacristain en sortant un document du coffret. Christine lut, je donne ces bijoux, énumération des bijoux, à Jean-Joseph Drouin, gardien de la chapelle des Coulterets, chargé de veiller sur le repos de mon âme. C'est bien cela, fit la jeune fille en repliant le papier et en le rendant à Drouin. Et maintenant, Drouin, vous allez nous dire comment la marquise entendait que l'on veillât sur le repos de son âme? Drouin rangea les bijoux, le papier, referma le coffret,
le plaça dans l'armoire, ferma celle-ci et dit « Ah, ça, c'est mon affaire. » « Mais c'est aussi la mienne, Rouine, et je ne suis venu ici que pour cela. Je connaissais la volonté de la marquise. Je savais les arrangements qu'elle avait déjà pris avec Sangor. Et elle m'a écrit, quelques jours avant sa mort, qu'elle s'était arrangée non seulement avec Sangor, mais encore avec vous. Parlez, Rouine, il le faut. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Si les dernières volontés de la marquise seront accomplies. Ben, la dernière volonté de madame la marquise était celle-ci, mademoiselle, que je donne le diadème à Sangor quand elle serait morte. Et qu'il lui aurait coupé la tête, s'exclama Christine. Ben, quant aux broches, elles sont bien pour moi, continua l'autre sans broncher. « Gardez-le tout, Drouine, mais qu'on ne touche pas à la dépouille de ma pauvre amie. Elle a été assez torturée pendant sa vie pour qu'elle goûte le repos sacré des trépassés. »« Mais je ne garderai rien du tout, mademoiselle. Je donnerai le tout à Sangor pour qu'il s'en aille tout de suite, qu'on ne le revoie plus. Oh, je le connais assez. Il n'en demandera pas davantage. Et ma pauvre maîtresse dormira en paix et tout entière. » Comme une honnête chrétienne dans son tombeau, foi de Drouine. Vous êtes un brave homme, mon ami. Oui, mademoiselle, mais vous m'avez bien fait peur. J'ai cru un moment que vous étiez venu vous aussi pour tuer la nouvelle empouse. Allons prier pour elle, Drouine.
Chapitre 25, minuit. Christine voulut passer la nuit au château. On mit à la disposition des deux jeunes gens le premier étage de l'aile nord, c'est-à-dire deux chambres séparées par un salon, qui avait été autrefois l'appartement particulier de Catherine de Médicis et que Louis-Jean-Marie Chrysostome avait fait transformer, le trouvant particulièrement lugubre, dans le goût du jour, celui de la Pompadour, pour le réserver aux invités de marque. Nous ne pourrions dire si, dans leur rococo tout neuf, ces pièces qui avaient eu jadis leur caractère quand on ne les avait pas encore déguisées sous une parure aussi inattendue, présentaient à l'œil un aspect souriant et, comme on devait commencer à dire dans le premier tiers du XIXe siècle, confortable, mais il est permis d'affirmer que pour les visiteurs de nos jours, il n'est rien de plus triste que ces chicorées, ces palmettes et ces lauriers qui tombent en poussière, que tout ce tortillis de rosaces plaquées sur des murs de donjons, tout cela après aussi maussade, ridicule et flétrie que des oripeaux qui ont passé sous la pluie au lendemain du carnaval. « Ah !» murmura Jacques, « les quatre murs blanchis à la chaux d'une chambre d'auberge. » L'idée qu'on allait leur apporter leur dîner dans cette demeure de fée Carabosse fit faire une telle grimace au prosecteur que Christine finit par avoir pitié.
« Bon, allons donc prendre notre repas à l'auberge, » dit-elle à Jacques, « puisque cela te fait si grand plaisir. »
Et elle ajouta, « Ne sois persuadé que ça ne m'amuse pas plus que toi. » de rester ici. Cependant, je ne quitterai pas Coulterey avant Sangor, et tu sais pourquoi. Avec ces hindous, il faut s'attendre à tout, dès que la superstition est en jeu.
Mais j'ai confiance dans la vertu des bijoux de la marquise, émit Jacques en se permettant de sourire.
Que la marquise nous pardonne.
En descendant, ils eurent l'heureuse surprise de trouver dans la cour Sangor et Sing Sing qui montaient dans une torpedo en emportant leur petit bagage. Sangor salua fort dignement et Sing Sing, qui était accroché au volant comme un petit singe qui joue avec une roue, fit entendre un piaulement d'adieu et démarra. ils disparurent. Drouin survint.
C'est fait, dit-il. Oh, il n'y a pas eu la moindre difficulté. Il avait apporté un sabre, il m'en a fait cadeau. Je lui ai donné tous les bijoux et bon voyage.
Christine poussa un profond soupir et elle répéta que la marquise nous pardonne. Ils étaient en face du garage. Elle avisa soudain la dernière voiture qui s'y trouvait. Elle l'avait vue quelquefois à Paris, à l'hôtel du quai de Béthune. Cette auto servait assez souvent à la marquise quand on la conduisait faire une promenade au bois ou dans les environs. Elle s'en approcha et la considéra de près. C'était une forte limousine d'une carrosserie solide et copieusement capitonnée à l'intérieur. Christine examina les portières, les glaces. Jacques comprit son idée et lui aussi chercha. Ils trouvèrent près du chauffeur le petit bouton sur lequel il fallait appuyer pour faire jouer automatiquement les volets. Instantanément, la voiture fut transformée en une cage hermétiquement close. Drouin les regardait faire.
C'est dans cette voiture qu'elle est arrivée, demanda Jacques. Oui, répondit Drouin, pauvre femme. Quel martyr, soupira encore Christine, les larmes aux yeux.
Oh, le bon Dieu en a eu pitié, reprit Drouin en hochant la tête. Maintenant, elle est bien tranquille.
Quand Jacques et Christine arrivèrent à l'auberge de la Grotte aux Fées, ils furent assez surpris de l'allégresse générale qui y régnait. Ils ne connaissaient point les mœurs, il n'y a rien qui donne appétit et soif comme un enterrement. Par une pente naturelle de l'esprit, les vivants se comparent aux morts qu'ils viennent de conduire à sa dernière demeure, se félicitent intérieurement de pouvoir goûter encore aux joies de la vie, et s'empresse d'autant plus d'en jouir que l'exemple qui leur a frappé récemment les yeux, quelquefois jusqu'aux larmes, leur a fait mesurer la brièveté des jours. Depuis la funèbre cérémonie, la ripaille n'avait pas cessé. On s'était bien levé un instant pour faire une partie de boules, mais on se retrouvait toujours à table pour un repas qui semblait ne pas devoir avoir de fin. La domesticité, doublée pour la circonstance, était sur les dents. La veuve Gérard servait en extra. Elle en avait entendu des plaisanteries sur son aventure du matin, sur le geste du marquis qui l'avait fait fuir. Ça lui apprendrait à raconter des histoires d'empouse. On avait voulu la faire boire.
Trinquons à l'empouse, mère Gérard, si vous ne voulez pas qu'elle vienne vous tirer par les pieds.
Elle ne répondit rien, le front têtu, l'œil mauvais, les dents serrées.
Oh, ne la blaguons plus, finirent-ils par dire. Elle commence à avoir le mauvais œil.
On croit au mauvais œil à Coulteret. Ils la laissèrent tranquille. Ils se mirent à chanter des vieilles chansons du pays.
Oh, ils en ont comme cela jusqu'à demain matin, dit Jacques, quand Christine et lui eurent fini de dîner dans un coin de tonnelle.
T'as eu raison d'accepter l'hospitalité du marquis. Ici, nous n'eussions pas fermé l'œil.
Ils rentrèrent au château, s'embrassèrent, se souhaitèrent une bonne nuit. Jacques se coucha et dormit tout de suite. Christine ne se coucha pas. Elle se laissa tomber, pensive, dans un fauteuil. Sa fenêtre était restée ouverte. Un paysage lunaire s'étendait devant elle, d'une grande étendue et d'une grande beauté. D'abord, c'étaient les bâtiments du château, avec leurs ombres crues sur la terre déserte, silencieuse, qu'aucun bruit ne venait troubler. Puis le long trou noir des douves qui séparait la cour d'honneur de la baille, puis le vaste espace blanc de la baille, et à l'extrémité du plateau,
au-delà d'un petit mur bas, le cimetière avec ses croix penchées ou droites, ses dalles moussues et quelques-unes luisant sous la lune comme des glaces. Derrière la silhouette élancée de la fine chapelle du XIVe siècle, au fond de laquelle dormait pour toujours, tranquillement, cette pauvre Betsy Anne-Elisabeth. Combien de temps Christine resta-t-elle ainsi à rêver, et à rêver de quoi? Soudain, elle tressaillit. Là-bas, dans la vallée, la vieille église romane de Coulteret faisait entendre les 12 coups de minuit. Christine se leva, poussa sa fenêtre car elle avait froid et commença à se dévêtir. Elle revint à la fenêtre pour en tirer le rideau, mais elle poussa une sourde exclamation et s'accrocha au mur pour ne point tomber. Elle avait vu, très distinctement vu, là-bas, entre les tombes du cimetière, une forme blanche, toute blanche, qui glissait, se déplaçait avec la légèreté d'un fantôme. Cette forme flottante et indécise, que semblait traverser comme un cristal les rayons de la lune, fit le tour de la chapelle et disparut dans la direction de la demeure de Drouin. Christine aurait voulu crier, elle ne le pouvait pas. Sa gorge se refusait à laisser échapper le moindre son. La terreur, maîtresse de ses sens et de ses organes, la tenait là, anéantie, entre ce coin de mur et cette fenêtre. Et puis soudain, elle glissa, ses jambes se dérobèrent sous elle, sa tête frappa brusquement le parquet et la douleur qu'elle ressentit lui restitua la force physique nécessaire pour appeler. Alors elle appela Jacques désespérément, sourdement, lugubrement, dans un râle de femme qui se noie. Jacques accourut, la trouva se traînant à terre dans un désordre qui lui laissait demi-nue, sans son admirable chevelure qui s'était déroulée et l'enveloppait de sa vague protectrice. Il put croire qu'elle avait roulé de sa couche, poursuivie par un affreux cauchemar auquel elle était encore en proie. Et il n'en douta point quand il l'entendit prononcer entre deux hoquets de terreur, cependant que son bras rigide désignait la fenêtre et la lointaine campagne lunaire. « Elle, elle, je l'ai vue! Elle se promenait dans le cimetière. Mon Dieu, mais que va-t-elle faire? Mais que va-t-elle faire ?» Il enveloppa Christine chastement dans un manteau et la déposa sur le lit. Il essaya de la calmer par de bonnes paroles. « Voyons, Christine, réveille-toi, ma chérie. Sors de ce mauvais rêve. » Mais âprement, elle lui répliquait, « Mais je ne dors pas, je ne rêve pas. Je te dis que je l'ai vue, comme je te vois. Elle a glissé le long du mur de la chapelle. Elle a léché Drouin, c'est sûr. » Ainsi, quelques minutes se passèrent, tandis qu'ils essayaient de se convaincre l'un et l'autre. Mais c'était à prévoir. Ça devait finir comme ça, gronda Jacques. Du moment que nous restions ici, impressionnables comme tu l'es maintenant. Cette crise est aussi logique que le développement d'un panari. Il avait à peine achevé que des coups sourds, répétés, retentissaient au rez-de-chaussée. Il voulut courir à la fenêtre, l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Mais elle lui avait jeté ses bras autour du cou et le retenait avec une force invincible. « Non, 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 n'y va pas, n'y va pas, c'est elle, je suis sûr que c'est elle. » Et puis ils se turent, car les coups avaient cessé, mais il leur semblait entendre maintenant un bruit dans le château. Une porte ou une fenêtre avait été ouverte, et d'autres portes claquaient, et des pas, une course, une espèce de bondissement dans l'escalier. Jacques s'était redressé.
Elle l'étouffait contre elle. « N'y va pas, n'y va pas. Ben, laisse-moi au moins aller fermer la porte à clé. » Elle l'abandonna un instant avec un sourire d'agonisante. Il courut à la porte et l'ouvrit. Ils se trouvèrent en face d'une figure de revenant qui agitait son ombre immense sous la projection de la lampe. C'était Drouin. Il entra, se jeta contre la porte, la referma de tout son poids et y prit équilibre pour pouvoir enfin souffler, haleter à son aise. Alors, il aperçut Christine qui avait l'air aussi égaré que lui. « Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? » demanda-t-il. Christine hocha la tête. « Elle l'avait vu, oui, oui, oui. Et lui, lui aussi, n'est-ce pas ?» Alors, il raconta par bribes, par morceaux, tandis que soufflait son âme épouvantée au fond de sa forge intérieure. « Je dormais, je venais de m'endormir, à peine. » J'ai entendu sa voix qui m'appelait. Oh, j'ai pas eu peur d'abord, une voix si douce que j'ai cru que je rêvais. Mais une petite pierre m'a frappé contre ma vitre. Alors je me rendis compte que je ne rêvais pas. Je commençais à trembler. J'allais à la fenêtre, comme je ne voyais rien, que le cimetière me paraissait bien tranquille, j'ai ouvert la fenêtre. Alors, j'ai entendu la voix qui reprenait avec plus de force. « Drouin, Drouin !» Alors, je l'ai aperçu, debout contre le mur du rempart. « Tu me reconnais donc pas ?» dit-elle. « Mais c'est moi, ta maîtresse, la marquise de Courteret, la femme de ton épouse. Qu'as-tu fait de moi, Drouin ?» Oh, je tombais à genoux en faisant un grand signe de croix. Ah, c'était elle, oui, c'était bien elle. C'était bien sa voix, ses manières si douces et si tristes, tout. Et elle reprit. Qu'as-tu fait de moi, Halloween? Qu'as-tu fait de moi? Pourquoi ne m'as-tu pas livré à Sangor? Ma gorge l'attendait, et maintenant ma gorge a soif. Oui, oui, elle a dit cela, je suis sûr qu'elle l'a dit. Elle parlait très distinctement. On entendait sa petite voix claire comme une clochette d'argent dans la nuit. Sa voix n'était pas méchante, mais ce qu'elle disait était terrible. Tu as fait de moi l'épouse de Louis-Jean-Marie Chrysostome pour l'éternité. Et là-dessus... Elle a disparu par la brèche, elle a glissé tout le long de la prairie. Elle s'est retournée un instant pour me faire un signe d'adieu. Elle est entrée sous le bois. Corfo est mon âme, si j'ai menti. Noïne s'était mise à genoux et se signait et se donnait de grands coups sourds dans la poitrine comme pour son mea culpa, comme si tout ce qui arrivait là était bien de sa faute. Il répéta dans un sanglot, « Mais c'est épouvantable, c'est moi qui l'ai livré au démon, que Jésus ait pitié de nous. » Christine pleurait comme une madeleine. Jacques était allé à la fenêtre, regardait le paysage paisible, qui semblait immuable dans sa solitude matérielle, sous les cieux clairs et le regard froid de l'astre des nuits. Le paysage sans fantômes. Mais vous deviendrez tous fous dans ce pays, avec votre histoire d'empouse, leur dit-il. Voici ce que tu vas faire, Drouin. Tu vas venir avec moi, descendons dans la crypte. Oh non, non, j'en reviens, j'en reviens. Comment tu en reviens? Oui, quand elle a été partie... Je me suis trouvé mieux, je ne la voyais plus, l'air froid du dehors sur mon front, enfin, je me suis dit que j'avais peut-être rêvé. Et puis je me suis dit aussi que la crypte était fermée, que les murs en étaient bien épais, même pour une empouse. Enfin, ça a été plus fort que ma peur, j'ai voulu savoir. J'ai passé un pantalon, j'ai pris les clés de la chapelle, et je suis descendu. Alors je me suis rendu compte tout de suite que si les grandes grilles de la crypte derrière le tombeau de ces bras de fer étaient bien fermées, j'avais oublié de refermer la petite porte qui s'ouvre dans le pied de la tour. C'est par là que je vous ai fait descendre, vous savez. Eh bien, c'est par là qu'elle était sortie. Oh, il n'y avait pas à s'y tromper, la pierre était déplacée. Le tombeau ouvert et le cercueil aussi. Et il n'y avait plus rien dedans. Reste ici avec Christine et attendez-moi tous les deux. Jacques était déjà dehors malgré le cri de la jeune fille. Par la fenêtre, ils le virent traverser en courant la cour d'honneur, puis d'un pas tranquille, toute la largeur de la baille. Évidemment, il essayait de se dominer, d'arriver là-bas avec tout son sang-froid. Ce n'était pas lui qui se laisserait entraîner par la folie ambiante. Soudain, Christine et Drouin firent entendre un gémissement rauque en même temps. La jeune fille avait saisi le bras de Drouin et le lui serrait à le faire crier. Jacques venait de pénétrer dans le cimetière et dans le même moment, la forme flottante était apparue à nouveau, glissant le long du mur de la chapelle, revenant dans le cimetière, le fantôme pâle de Bessie Anne-Elisabeth. Elle passa devant le porche, arriva à la petite tour et disparut par la porte basse qui menait à la crypte. Jacques, qui s'était arrêté un instant, prit le même chemin et pénétra derrière elle dans le monument. Accrochés l'un à l'autre, le front à la vitre, ni Christine ni Drouin ne prononcèrent une parole. Toute leur vie, c'est-à-dire tout ce qui leur restait de force vitale, s'était réfugié dans leur regard, qui ne quittait point le cimetière, la chapelle et ce petit trou noir de la porte par lequel Bessie et Jacques étaient descendus dans la terre des morts. De longues, longues minutes s'écoulèrent ainsi. Enfin, ils virent réapparaître Jacques. Christine laissa échapper un long soupir. Elle était couverte d'une sueur glacée et ses dents s'entrechoquaient. Drouin, lui, ne remuait pas plus qu'une pierre. Jacques était sorti du cimetière, traversé la baille de son pas tranquille. Il franchit la cour d'honneur, leva la tête vers la fenêtre et leur fit un signe amical. Quand il entra dans la chambre, ils le considérèrent comme s'il revenait lui aussi de l'autre monde. « Bien, vous êtes des enfants, leur dit-il, et vous avez rêvé. La même pensée vous habitait tous les deux, et vous avez eu la même vision. Je reviens de la crypte, et quoi que vous en disiez, Drouin, rien n'a bougé. La pierre est toujours à sa place. On n'a pas touché au tombeau. » « Mais tu mens !» s'écria Christine, « tu l'as vu aussi bien que nous. Tu t'es même arrêté en la voyant, et tu es descendu derrière elle, dans la crypte. »« Mais c'est vrai !» fit Drouin d'une voix rude. « C'est la vérité du bon Dieu sur ma part de paradis !» Et il se signa de nouveau. « Alors vous me prenez pour un imposteur. Drouin, vous êtes un homme, eh bien, accompagnez-moi. » « Revenez avec moi dans la crypte et vous reconnaîtrez votre erreur. »« Non, je reste ici, » déclara-t-il de son air le plus sombre. « Demain, il fera jour. » Il s'installa dans le couloir, roulé dans une couverture. Christine ne voulut point que Jacques la quittât et elle finit par s'endormir dans un fauteuil aux approches de l'aube. Jacques lui-même commençait à fermer les yeux
quand un bruit de voix, une rumeur venue du dehors, les sortit de leur somnolence. Un groupe de villageois se montrait autour de la chapelle, d'autres accouraient dans la baille en appelant Owen, et l'on voyait à chaque instant des paysans qui traversaient l'après, se dirigeant vers le château avec de grands gestes. Pour comprendre tout cet émoi du pays de Coulteret, il est nécessaire de préciser ici les événements qui s'étaient déroulés pendant la nuit dans le village, alors que Christine, Jacques et Owen passaient des minutes d'angoisse que nous avons rapportées dans le château. La petite fête s'était prolongée à l'auberge de la Grotte aux Fées. Il y a toujours dans ce genre de réjouissance, que ce soit à propos d'une mort ou d'un mariage, des enragés qui ne se décident jamais à quitter la table. D'autant que les cartes finissent toujours par fixer les plus hésitants, ce qui tout de même ne demanderait pas mieux que de s'en aller coucher. À minuit, ils étaient encore quatre à se disputer leurs sous en vidant les pots. C'était Birouste, le forgeron, Verdeil, qui tenait un garage et vendait de l'essence au coin du pont, au carrefour des trois routes, l'esprit fort de Coulteret, l'épicier Nicole et Tamisier, le plus gros marchand de vin du bourg et des environs. Avec Achard, l'aubergiste, un type qui avait fait danser trois générations, qui n'avait jamais voulu être quoi que ce soit dans la municipalité, histoire de rester l'ami de tout le monde, mais qui n'en était pas moins, de fait, le chef de la localité, comme qui dirait la clé de voûte du pays. Il y avait là cinq fortes têtes auxquelles il était bien difficile de faire prendre, comme on dit vulgairement, des vessies pour des lanternes. Or, environ un quart d'heure après minuit, ces cinq hommes entendirent un grand cri poussé par la veuve Gérard, qui était restée à l'auberge pour aider au service, et qui, ayant achevé sa tâche, traversait la cour pour rentrer chez elle, une petite maison à un étage située à l'orée du bourg, un peu avant le pont, presque en face Verdeil. Ce cri était si affreux que les cinq qui étaient là en frissonnèrent et se levèrent d'un seul mouvement, pour savoir ce qui arrivait. Ils trouvèrent la veuve Gérard dans la cour, comme changée en statue, la bouche grande ouverte du cri qu'elle venait de pousser et regardant comme une illuminée devant elle dans la campagne. Instinctivement, ils suivirent la direction de ce regard de folle et ils virent une forme blanche qui descendait l'après enveloppée d'un long voile. La clarté était si vive, la lumière de la pleine lune si éclatante, que l'on pouvait distinguer la guirlande de fleurs qui couronnait la tête du fantôme et tombait avec ses cheveux sur ses épaules. Ils n'hésitèrent pas, du premier coup, ils comprirent que c'était elle, la nouvelle empouse, qui venait de s'échapper du tombeau et marchait sur Coulteret. Ils n'étaient pas six à avoir la berlue. Ils entraînèrent la veuve Gérard et s'engouffrèrent dans l'auberge. On ferma portes et fenêtres, on avertit les servantes, on se barricada. Tout le monde se réunit dans la même salle. La veuve Gérard se mit à réciter l'Ave Maria. Les servantes lui donnaient la réplique. Les hommes ne disaient rien. Ils étaient pâles, ils avaient honte de leur peur. « Mais tout de même, » prononça Charles l'aubergiste, « nous sommes idiots, c'est pas possible. » Mais les autres protestèrent, ils l'avaient bien vue. Elle sortait du mur du château. « Sûr, » fit entendre le forgeron, « nous sommes victimes d'un alchimiste, jeteur de mauvais sort. Eh bien, je l'aurais jamais cru. » Des choses pareilles à nuit, aujourd'hui. Qu'est-ce que vient faire par ici cette drôlière ? Achard ne tenait plus en place. Très agacé, il fit taire les femmes qui recommençaient indéfiniment leur Ave Maria. Bon, non, c'est pas possible.
ce qu'on va nous fabuler demain !» Et il sortit de la salle. On lui cria de se tenir tranquille, mais c'était plus fort que lui. Il rouvrit une fenêtre et aussitôt il appela les autres qui se levèrent sans entrain. Les femmes ne bougèrent pas, mais elles entendirent « La Roulevin, c'est elle, elle remonte, elle rentre au château, tenez, lave-la près du mur, elle retourne au cimetière, eh ben, qu'elle y hante et qu'elle en sorte plus, les ampoules paraît que ça travaille que la nuit, ça a peur du jour, eh ben alors, et le marquis ?» Et les femmes reprirent « Ave Maria, Ave Maria » avec une sorte de fureur sacrée. Mais les hommes les firent encore taire dès qu'ils rentrèrent dans la salle. Ils étaient déjà familiarisés avec l'idée de l'empouse. Ils l'avaient vue rentrer chez elle. Alors ils étaient plus rassurés. Ils avaient toute une journée devant eux pour décider ce qu'il y avait à faire. Ce qui les tracassait par-dessus tout, c'était la pensée qu'on ne les croirait pas, qu'on les fabulerait. Crainte chimérique, car au premier rayon du jour, quand on osa se montrer dans les rues, tout Coulteret fut debout. Les gens de l'auberge n'avaient pas été les seuls à s'apercevoir de l'empouse. Il y en avait même qui l'avaient entendue. Par exemple, les deux voisines de la veuve Gérard, qui habitaient près du pont. Elles avaient été réveillées par des appels. « Adolphine ! Adolphine !» C'était le petit nom de la veuve Gérard. Elle s'était levée et avait reconnu la marquise, telle qu'elle l'avait vue le matin même dans son cercueil. Elle était restée quelques instants au milieu de la route, la tête levée vers la chambre d'Adolphine, qui ne pouvait lui répondre puisqu'elle était à l'auberge. C'était là un renseignement que les deux voisines juraient absolument exact. Quant à l'empouse, elle était repartie en poussant un gros soupir. Les deux voisines avaient passé le reste de la nuit en prière. On comprendra facilement qu'il n'en fallait pas tant pour mettre le pays sans dessus-dessous. Quand on sut ce qui était arrivé à Drouin, les plus incrédules s'inclinèrent, sauf trois, le maire, le médecin et le curé. Le médecin, M. Morisset, expliqua scientifiquement un événement aussi extraordinaire. Ce n'était pas la première fois que l'on se trouvait en face d'une hallucination collective. Elle s'expliquait par la légende solidement établie dans ce pays de l'empouse. Les gars de l'auberge devaient être à moitié ivres. Jacques Cotentin, consulté, fut naturellement de l'avis de ces messieurs. Lui n'avait rien vu, rien qu'une tombe à laquelle on n'avait pas touché. Cependant, on était en face d'une population soulevée par la superstition et qu'il fallait calmer. Voici ce qui se disait. Si le tombeau n'avait pas été provisoire, si la pierre en avait été scellée, cimentée comme il convient, si le cercueil de plomb avait été bien rivé, car c'était un cercueil à rivets pour qu'on pût facilement l'ouvrir lors de la cérémonie définitive, l'empouse n'aurait pas pu s'échapper, venir se promener la nuit dans Coulteret. Eh bien, on allait donner satisfaction aux populaires. On allait ouvrir la tombe, montrer à tous la dépouille mortelle de Messiane Elisabeth, et devant tous refermer cercueil et tombeau et cimenter la pierre qui le recouvrait. Enfin, le curé viendrait en grande cérémonie prononcer les paroles d'exorcisme. Ainsi fut fait, et tout le monde, pour le moment, fut calmé. Christine revit encore une fois son amie, et en vérité, qu'une morte si bien morte se fût offert la nuit précédente une promenade qui avait tant fait parler d'elle, Voilà ce qui acheva de lui brouiller les idées. Elle ne savait plus ce qu'elle avait vu, ni si elle avait vu. Quant à Drouin, il était plus sombre que jamais, et il ne fallait pas lui parler d'hallucination, ni particulière ni collective. Il avait vu la mort sous ses fenêtres, il avait vu le tombeau vide. Jacques dut le faire taire. Christine, dont l'état de faiblesse était extrême, eut voulu partir le soir même de ce jour qui comptera jamais dans les annales de Coulteret et où la légende de l'empouse reprit d'une force qui rayonna jusque dans les provinces limitrophes, si bien que les visiteurs affluèrent dans le pays dans des proportions telles que la fortune d'Achard l'aubergiste fut faite et aussi celle du successeur de Drouin, qui ne manquait pas de raconter l'histoire de l'empouse comme si elle lui était arrivée à lui. Pour en revenir à Christine, elle fut prise le soir même en rentrant au château après la cérémonie de l'exorcisme d'une étrange torpeur qui provenait peut-être simplement de son état de faiblesse. Elle dut se coucher et ne sortit de cet état que le lendemain matin pour voir rentrer dans la cour du château la fameuse limousine au volet de fer qu'elle n'avait pas vue partir. Ce matin-là, la voiture n'avait rien de mystérieux. Elle était ouverte, seulement elle était conduite par Jacques, ce qui ne laissa pas d'étonner Christine. « Mais d'où reviens-tu donc ?» lui demanda-t-elle avec cette limousine. « Oh, j'ai eu pitié de ce pauvre Drouin qui voulait déménager tout de suite. Comme la veuve Gérard voulait aussi quitter le pays et qu'ils doivent se marier, je les ai sur leur prière conduits cette nuit même en Sologne, où Drouin possède un petit bien et où il a décidé de finir ses jours. J'ai pris cette voiture parce qu'il n'y avait plus d'autres au château. » Les malheureux seraient devenus fous, je crois, si j'étais resté une heure de plus dans ce pays. « Ah, ma foi, je comprends ça maintenant, » fit Christine. « Allons-nous-en, nous aussi, et tout de suite. » Pendant le voyage, elle resta quelques heures sans parler. On ne savait si elle dormait ou si elle réfléchissait. Un moment, elle rouvrit les yeux et dit à Jacques, « C'est tout de même extraordinaire que tu m'aies laissé comme cela, sans prévenir, dans ce château. Car enfin, pendant que tu conduisais Drouin et cette veuve Gérard en Sologne, moi, j'étais restée toute seule. » « Non, répondit Jacques, tu n'étais pas toute seule. Le docteur Morisset, sur ma prière, a passé la nuit au château. » Le soir même, ils étaient à Tours. Ils y recevaient une dépêche du vieux Norbert. « Rentrez de suite. Gabriel me donne des inquiétudes. »